France Culture.
Pendant tout un temps, le feu n'existait pas sur Terre. Il a fallu que l'oxygène, produit par la vie dans les océans, fasse son apparition. En s'accumulant dans l'atmosphère, il a rendu possible la combustion. Mais il a également fallu qu'il y ait de la biomasse dans des endroits où elle puisse brûler. L'océan n'était pas l'endroit pour ça. Et les plantes ont dû coloniser les continents, les reliefs et les îles. À partir de là, il y avait deux des trois ingrédients nécessaires au feu.
Stephen Pine, historien.
Le plus souvent, c'était la foudre qui provoquait l'allumage. Ça pouvait aussi être des volcans, mais les feux provoqués par la foudre étaient bien plus fréquents. C'est ainsi que pendant 420 millions d'années, le feu et la vie ont coexisté, et de bien des manières, ont coévolué. Le feu n'est pas quelque chose d'étranger à la vie sur Terre. Il l'accompagne depuis le début. Le feu et le vivant partagent une chimie commune. Le feu sépare ce que la photosynthèse assemble. Lorsque cette réaction a lieu dans nos cellules, nous appelons ça la respiration. Cela désigne le processus d'oxydation des hydrates de carbone. C'est une réaction très contrôlée qui ne se propage pas au-delà de la cellule.
It's very contained, very engineered biologically. When that reaction occurs,
mais quand cette réaction a lieu dans l'environnement, il n'y a aucun contrôle.
So you're subject to wind and canyons and mountains and all kinds of.
Le vent, les montagnes et la géographie des lieux forment un cadre ouvert à la propagation du feu.
In comparison, so we call that fire. But there is a sense.
Mais d'une certaine façon, la chimie à l'œuvre est la même.
Transition énergétique, éteindre un feu hors de contrôle. Une série documentaire de Théo Favre, réalisée par Gaël Gillon, épisode 1, électricité partout, sobriété nulle part.
Là, on va prendre le temps de se préparer vraiment des toutes petites brindilles, en fait, des bouts de branches. Parce qu'on aura notre nid en paille qui va prendre feu, il va s'enflammer, mais ça se consume vite. Donc il faut qu'il puisse transmettre la flamme à du tout petit matériel. Ah, les grenouilles sont pas contentes que je fasse du feu. La technique d'allumage par friction manuelle, c'est le luxe d'avoir juste deux bouts de bois.
Kim Pache, trappeur.
Alors, ça va dépendre de l'hygrométrie, mais on va chercher autour des 360, presque 400 degrés, en pic, pour que, en fait, tout d'un coup, un bout de bois se transforme. Enfin, qui est la pyrolyse, ça se transforme en braise. On veut monter quand même haut en température, mais on a aussi besoin d'oxygène. Donc pour qu'on puisse avoir de l'oxygène à cet endroit-là, on crée cette entaille levée qui fait que de l'air peut s'enfiler pile là où ça frotte. Parce qu'en fait, le feu, c'est un triangle. On parle de carburant, on le sait, mais en fait, on parle moins du comburant, ça c'est l'oxygène. Donc sans oxygène, on a pas de pyrolyse. Et puis, l'énergie d'activation, c'est la troisième côté de notre triangle. Et après, on souffle ou on fait voyager le nid pour qu'il s'oxygène, jusqu'à avoir une flamme. Donc, on y va. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément des gestes très rapides dont on a besoin. Des gestes réguliers. Là, on voit déjà de la fumée, un peu de poussière qui rentre dans le V. Et juste en faisant un peu de vent avec la main. Voilà, on voit la braise qui apparaît. Et puis on entend que ça monte, quoi. On entend les crépitements.
Homo erectus, 2 million years ago, could manipulate fire.
Homo erectus, il y a 2 millions d'années, pouvait manipuler le feu. Nous devons notre gros cerveau et la petitesse de notre intestin au fait d'avoir cuit les aliments. La cuisson a entraîné des changements considérables dans l'évolution humaine. Mais nous avons aussi utilisé le feu pour façonner les milieux, exercer une influence sur les déplacements d'animaux ou sur les peuplements végétaux.
And so forth. There's a lot we can do that's sort of a more expanded concept of cooking.
Beaucoup de ces pratiques peuvent être vues comme une extension du concept de cuisson appliqué à l'environnement pour le rendre plus habitable et plus comestible. Tout cela a duré longtemps. Un changement fondamental a eu lieu quand Homo sapiens est arrivé à la fin de l'âge glaciaire. Cette créature, qui n'est autre que nous, évolue alors sur une planète dont le réchauffement rapide crée des conditions toujours plus propices au feu. Son influence s'exerce alors à l'échelle régionale, continentale, puis finalement globale. Il me semble que c'est le grand narratif de ces 10 derniers milliers d'années. Ce que les géologues ont appelé l'Holocène, et que j'appelle moi le Pyrocène, tant cette capacité à manipuler le feu a conféré aux humains un énorme pouvoir. Notre puissance est littéralement une puissance de feu.
Avant de parler d'énergie, il fallait faire un feu, sans allumettes ni briquets, rejouer cette scène primitive pour mieux comprendre ce qui est à l'œuvre. La flamme qui jaillit d'un morceau de bois que l'on chauffe, c'est surnaturel, immédiatement séduisant. À nous, qui sommes des chimères sans cheveux, elle emporte les imaginaires. Cette flamme-là vient rappeler que l'énergie, avant d'être une affaire de kilowattheure, est une métaphysique, un lieu de fantasmes et d'histoires qu'on se raconte.
Le feu n'est pas une substance au même titre que la terre, l'air ou l'eau. C'est une réaction. Il synthétise son environnement. Mais avec la découverte de l'oxygène et le développement simultané des machines à vapeur, le feu va prendre un caractère différent. Il n'est plus intriqué à l'environnement comme il a pu l'être pendant 420 millions d'années. Il en est extrait, isolé. Sa chimie spécifique est séparée des autres réactions chimiques qui normalement l'accompagnent et qui se manifestent notamment par de la fumée. Elle s'en trouve déconstruite sous une forme que l'on peut intégrer à ces machines et à tout autre système pour produire de l'énergie.
To generate power. So it is now one thing.
Le feu est comme réduit à lui-même.
Et
je crois qu'on peut voir dans toutes ces machines et ces centrales énergétiques qui fonctionnent pour la plupart avec des combustibles fossiles comme des fermes-usines de la combustion. C'est de cette manière que le feu a été abstrait sous le concept d'énergie.
Le vol du feu aux dieux pour en faire don aux hommes, le geste inaugural de Prométhée, s'est traduit en Occident par le projet d'une émancipation fondée sur la maîtrise et la possession de la nature, perçue comme un ensemble de ressources à exploiter. Nous pensons aujourd'hui que ce feu mythique a disparu de nos vies. Nous avons tort. Il est partout. Dans les voitures, dans les usines, dans les champs, dans les maisons. Notre monde repose sur la combustion. Des milliards de feux invisibles, circonscrits dans des machines, brûle une biomasse vieille de millions d'années et apporte chaleur et mouvement. L'équivalent énergétique, pour chacune et chacun d'entre nous, de centaines d'esclaves humains à notre service. François Jarige, historien.
Le mot énergie, c'est un terme assez complexe. Hein. Jusqu'aux années 1830-1840, il n'avait pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Ce n'était pas un terme technique ou scientifique utilisé par des ingénieurs pour désigner le processus physique par lequel on produit de la chaleur. En fait, l'énergie, ça désignait la force qui nous portait. Quand tu ouvres les dictionnaires du XVIIIe siècle, l'énergie, c'est lié à l'amour, la passion amoureuse qui donne de l'énergie. Donc c'était quelque chose qui désignait de façon très large, pas des processus physico-chimiques pour le système industriel, ça désignait de façon très large une sorte de force qui nous pousse. Donc par extension, au milieu de la première moitié du XIXe siècle, les physiciens anglais ont inventé la physique moderne, la théorie de la thermodynamique, c'est-à-dire en fait l'explication du processus physique derrière la production de force via notamment la machine à vapeur. puisque la première formulation de la thermodynamique, c'est lié à Sadi Carnot, dans les années 1820, qui va publier un livre célèbre qui s'appelle la puissance motrice du feu, dans lequel il théorise le rôle de la machine à vapeur et comment ça va offrir aux sociétés occidentales en fait, une ressource énergétique hyper abondante. Et c'est le premier moment vraiment où émerge en fait ce thème de l'abondance énergétique. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas en fait de limite naturelle au développement économique, il y a juste un problème technique et il faut trouver les bonnes techniques pour utiliser les ressources qui permettront une abondance énergétique. Et c'est ce que promet le charbon qui est présenté vraiment. Et là, il y a toute une dimension théologico-religieuse aussi. Parce que pour les Anglais qui théorisent l'énergie dans les années 1830-40, l'énergie, c'est-à-dire le charbon et la puissance motrice et la puissance thermique du charbon pour faire fonctionner des locomotives, des usines, les grandes machines de la modernité industrielle, tout ça était aussi lié à tout un discours religieux, par exemple sur la supériorité britannique. Il y a tout un discours intéressant sur le fait que l'Angleterre soit le pays où il y a le plus de charbon, le plus facilement accessible et de meilleure qualité. Ça prouve que l'Angleterre est un pays élu de Dieu. Donc l'énergie, c'est à la fois une théorie physique qui s'installe, mais c'est aussi tout un imaginaire culturel très tôt, qui mêle toute une série de références religieuses, culturelles, et qui va créer un nouvel imaginaire de la puissance. Quoi. Ouais.
C'est une dimension que Prométhée n'avait probablement pas prise en compte. La puissance, ainsi conçue, est génératrice d'entropie, principe selon lequel l'énergie, cela se dégrade. En étant utilisée, elle passe d'un état structuré à une forme plus diffuse et désordonnée. On ne consomme pas de l'énergie, on produit de l'entropie. Et à l'ordre apparent des machines, correspondra nécessairement un désordre plus grand.
D'une certaine façon, nous avons perdu ce lien originel au feu, fait d'obligations à travers lesquelles se jouait le champ d'action de chacun. Au fond, tout cela a commencé dans une sorte de pacte d'assistance mutuelle. Mais petit à petit, et en particulier avec l'industrialisation et cette manière de considérer le feu comme quelque chose qui s'enferme dans des machines pour faire de l'énergie, cette relation est devenue abusive. Et désormais, ce pacte d'assistance originelle ressemble de plus en plus à un marché imposé par la force. Et ce qui fut notre meilleur allié est désormais notre pire ennemi.
Le choix du feu, c'est le choix des économies fossiles qui ne reposent plus sur les énergies naturelles anciennes, l'eau, le vent, la force musculaire des êtres vivants et le bois, qui étaient les principales sources d'énergie, qui imposaient des contraintes et des limites au développement économique et à la puissance. Donc c'est pour ça que c'était des sociétés qui étaient fondamentalement des sociétés qui reposaient sur la sobriété, l'économie des ressources. L'adoption du charbon et l'utilisation croissante du charbon, qui va se faire à partir de l'Angleterre, elle va en fait ouvrir les vannes d'une possibilité d'un accroissement considérable de l'énergie disponible pour les sociétés. C'est ça qu'on appelle le choix du feu. Mais d'abord, ce choix du feu, en fait, il ne s'est pas fait de façon brutale, immédiate et radicale. Il a été très progressif, très lent. En France, le charbon ne dépasse l'hydraulique comme source d'énergie que dans les années 1860-1870. C'est-à-dire, en fait, à la fin de ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est un processus qui va être très lent, très progressif, par strates successives, qui commence dans certains endroits en Angleterre. Pourquoi en Angleterre ? Parce que les Anglais avaient commencé à créer de grandes usines. Ils avaient besoin d'une source d'énergie puissante pour la faire fonctionner et d'une source d'énergie continue et permanente, parce que la logique du capitalisme, c'est de nécessiter une production en continu, alors que les systèmes socio-économiques anciens reposent fondamentalement toujours sur l'intermittence. Notamment parce que la production, elle est liée à la possibilité d'accéder à une énergie hydraulique qui est par définition intermittente. Il n'y en a pas beaucoup l'été, il n'y en a pas beaucoup l'hiver. Donc il faut s'adapter. Avec le capitalisme industriel, le système économique ne s'adapte plus au milieu naturel, aux ressources naturelles. C'est les ressources naturelles qui vont de plus en plus être adaptées aux logiques du système économique. Et c'est en cela que le choix du feu il est, et de la machine à vapeur qui va avec, donc le système charbon-vapeur, c'est ça le choix du feu. Ça résout ce problème parce que la machine à vapeur, elle n'est pas soumise au rythme du milieu, au rythme des flux des ressources hydrauliques ou du vent, ou elle n'est pas soumise aux contraintes aussi du travail des êtres vivants comme les animaux. Mais c'est un processus très lent. Ça me paraît important de rappeler que parfois on a une sorte de récit historique comme si l'histoire était une locomotive ou une machine à vapeur qui avançait toute seule comme une évidence, il n'y avait pas d'alternative, tout le monde voulait... Voilà. Non, en fait, l'adoption des énergies fossiles s'est faite lentement, progressivement, et a rencontré plein de limites.
suis dit, ça prend pas longtemps de convoquer le feu. Le feu, ça se convoque.
Ouais, pour moi, ça se convoque, ouais. Alors, ça vient d'une anecdote d'un aîné amérindien que j'ai rencontré il y a très longtemps, quand j'avais 19 ans, qui rigolait parce qu'on utilisait le mot « domestiquer le feu », les blancs. Il disait « mais vous avez rien domestiqué du tout, le feu, il est sauvage. Si on est gentil avec lui, il reste calme dans un foyer, mais il peut emporter la maison. » Et les cuits ont cette particularité qu'ils ne soufflent pas sur le feu. Et quand j'ai demandé en fait à cet aîné, mais pourquoi vous soufflez pas sur le feu, il dit, bah, par respect, parce qu'en fait le feu justement, si on le provoque, il brûle tout. Donc il y a quelque chose de pas vouloir lui forcer la main. Donc on souffle pas dessus.
On a soufflé sur le feu et il est en train d'emporter la maison. C'est le réchauffement du climat, bien sûr, auquel se surajoute le franchissement de toutes les limites planétaires. L'horizon d'un monde à plus 3, 4, 5 degrés à la fin du siècle, devenu en partie inhabitable, et dans lequel prêteront à sourire les méga-feux d'aujourd'hui. La catastrophe nous a fait entrer dans un temps propre au mythe, et d'urgence, odieux, il faut rendre le feu. Dans le langage courant, nous appelons ça faire une transition. Le défi est inédit et colossal. 80% de l'énergie utilisée dans le monde provenant encore du pétrole, du gaz et du charbon. Miser sur des économies d'énergie et sur une électrification massive des usages en produisant une électricité dite décarbonée, voilà les axes principaux de cette transition. La France, dont 25% de la consommation d'énergie s'appuie aujourd'hui sur l'électricité, reste dépendante à plus de 60% aux énergies fossiles. Sa stratégie de long terme prévoit, à l'horizon 2050, une diminution de 40% de cette consommation d'énergie, tout en amenant la part de l'électricité à plus de la moitié de son mix énergétique. Dans une odeur de brûlé, à l'heure du tout numérique et de la mise en données du monde, c'est un nouveau prodige qu'on demande à Prométhée d'accomplir, d'une main tremblante rendre le feu fossile, et de l'autre, plus assurée, s'emparer des électrons. Jean-Baptiste Fressoze, historien.
Cet imaginaire de la transition, si on veut lui chercher une origine lointaine, c'est probablement l'électrification à la fin du 19e siècle, qui est effectivement une très grande révolution technologique, mais qui n'est pas une révolution matérielle. C'est-à-dire que grâce à l'électricité, on peut consommer davantage de charbon. On peut consommer davantage de tout, en fait, grâce à l'électricité. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se substitue aux énergies et aux matières précédentes. Et de nos jours, évidemment, on n'est pas exactement dans la même situation parce qu'on n'est sans doute pas face à une immense croissance économique telle qu'on l'a connue au XXe siècle. Mais il y a encore cet imaginaire de l'électrification comme forme de dématérialisation. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est que l'électrification des usages, c'est évidemment mieux en termes d'émissions de CO2 que l'usage du pétrole, du charbon ou du gaz, ça fait absolument aucun doute. C'est une voiture électrique émet nettement moins de CO2 qu'une voiture à pétrole, hein, il faut bien le préciser à chaque fois, mais c'est pas du tout immatériel. Pour faire une voiture électrique, il faut énormément de charbon. Ne serait-ce que parce qu'il y a une grosse masse d'acier dans une voiture électrique et l'acier, ben on va le faire encore avec du charbon. Pendant longtemps, on va faire encore de l'acier avec du charbon. Puis il y a l'affaire de la batterie, évidemment, qui nécessite tout un éventail de métaux compliqués à extraire, compliqués à raffiner, et qui sont évidemment émetteurs de CO2 à produire. Et puis une fois que vous avez la voiture électrique, bon, ben vous avez une forme d'urbanisation telle qu'on l'a connue au XXe siècle qui va perdurer. C'est-à-dire qu'on va construire davantage de maisons individuelles, davantage de routes. Ces routes, elles sont produites comment ? Elles sont produites avec du ciment, avec de l'acier, et tout ça est émetteur de CO2. Si vous avez une expansion urbaine et des maisons de plus en plus grandes, on les remplit de biens industriels qui ont émis du CO2 dans leur production. Donc vraiment, le point important, à mon avis, c'est qu'il faut penser les énergies et les matières de manière symbiotique. C'est-à-dire il y a des très fortes relations d'entraide entre les énergies et les matières. On a beaucoup trop pensé l'énergie avec un prisme darwinien, comme si les énergies étaient en compétition les unes contre les autres, la conquête d'un marché, alors que dans plein de domaines, en fait, les énergies, elles s'entraident et elles s'épaulent les unes les autres. La transition énergétique, quand on y réfléchit, ce n'est pas une notion scientifique sérieuse. C'est-à-dire, on passe pas simplement d'une énergie à une autre. Historiquement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On n'est pas passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. L'histoire de l'énergie n'est pas du tout une histoire de transition énergétique. C'est l'histoire de l'expansion symbiotique, c'est-à-dire de concert de toutes les énergies et de toutes les matières. Les énergies sont profondément intriquées les unes dans les autres. Notre époque, c'est l'âge de toutes les matières et de toutes les énergies. C'est en ce moment qu'on consomme le plus de bois énergie. C'est en ce moment qu'on consomme évidemment le plus d'énergie hydraulique. C'est en ce moment qu'on consomme le plus d'éoliennes, qu'on consomme aussi le plus de charbon, le plus de gaz, le plus de pétrole, le plus de tout. D'accord ? Donc vraiment, cette vision phasiste de l'histoire de l'énergie et de la matière, elle est très fausse. Et elle a nourri cet imaginaire de la transition énergétique, cette idée que face au changement climatique, eh bien ma foi, en 2 ou 3 décennies, on peut entièrement sortir des fossiles à l'échelle mondiale.
Mathieu Ozano, directeur du Shift Project.
Le pétrole, le gaz, le charbon, ce sont les énergies faciles. Pourquoi je dis ça ? Parce que toutes les alternatives, qu'on soit pro-nucléaire ou pro-renouvelable, c'est la même chose, ont un défaut, c'est qu'elles sont plus compliquées. Grosso modo, elles sont plus compliquées à déployer industriellement au même niveau de consommation. Pour pas mal de raisons, mais peut-être pour une raison fondamentale, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Vous prenez un baril de pétrole, vous le mettez dans un coin, vous revenez dans un siècle. Normalement, si tout va bien, si ce baril a été bien colmaté, vous pouvez utiliser le pétrole. L'électricité, elle ne se stocke pas. Et ce simple fait oblige à déployer des trésors d'ingénierie qui ont leurs limites pour espérer faire jeu égal à un niveau de consommation équivalent avec autre chose que du pétrole, du gaz et du charbon. Un moteur électrique, c'est plus simple qu'un moteur thermique. C'est même plus efficace. Mais le système industriel qu'il faut déployer tout autour pour avoir de l'électricité bas carbone en abondance, lui, il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fragile qu'un système puits de pétrole, tanker, terminal pétrolier, pipeline, raffinerie et station-service au bout. Ça, c'est un système énergétique qui est à la fois simple et robuste. Les systèmes électriques, ils sont beaucoup plus compliqués, mais encore une fois, pour des raisons physiques, naturelles. Et sortir de ces énergies fossiles, ça suppose de faire aussi bien en tant que société, si j'espère mieux, avec beaucoup moins d'énergie, parce que physiquement, les systèmes électriques ou les systèmes bas carbone de manière générale sont plus compliqués à maîtriser et donc ne sont pas aussi généreux en puissance que le système qu'on connaît depuis la révolution industrielle en Angleterre vers 1820.
Yves Marignac, porte-parole de l'association Negawatt.
Il faut bien comprendre que la question de la transition énergétique se pose, pas seulement parce que il faut décarboner pour atteindre nos objectifs climatiques, mais parce que fondamentalement, notre génération est celle où l'humanité, à force de développement, touche aux limites planétaires. Et toucher aux limites planétaires, ça veut dire que les logiques de développement, de nouvelles technologies, d'addition, de ressources, etc., qui ont prévalu jusqu'ici, doivent devenir des logiques de substitution. Et typiquement, ce qui est en jeu aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, c'est de faire en sorte que les nouvelles productions décarbonées que l'on développe viennent remplacer les énergies fossiles plutôt que s'ajouter dans une consommation d'énergie toujours croissante. Donc il y a 2 enjeux majeurs derrière ça. Le premier, c'est que les énergies décarbonées se déploient suffisamment vite pour permettre cette substitution. Et là-dessus, on a des signaux extrêmement encourageants aujourd'hui, hein, les renouvelables, qui clairement vont faire ce travail et pas du tout le nucléaire qui est stagnant. Les renouvelables se développent très vite et un signe extrêmement positif, c'est le fait que grâce au développement des renouvelables plus rapidement que la croissance économique, la Chine a vu l'an dernier pour la première fois les émissions de son secteur électrique baisser. Donc on voit que le rythme de développement des renouvelables atteint un niveau où il est susceptible de produire cette bascule, mais cette bascule ne se fera et ne se fera surtout au rythme nécessaire pour venir massivement effacer l'usage des énergies fossiles que si dans le même temps on applique beaucoup plus d'efforts de maîtrise de la consommation, c'est-à-dire ce qui manque aujourd'hui dans l'équation de la transition énergétique, c'est pas le développement de capacités de production décarbonée. Les renouvelables ont atteint aujourd'hui cette maturité et cette dynamique. C'est la maîtrise de la demande et notre pays et l'Europe ont certainement un rôle majeur à jouer pour donner l'exemple dans ce domaine, y compris parce que, indépendamment de l'enjeu de décarbonation, notre région du monde est celle qui est la moins bien dotée de ressources minérales, et donc celle qui a le plus intérêt pour survivre dans la compétition internationale à se tourner vers une économie beaucoup plus sobre et circulaire. Et donc, voilà, il y a urgence, effectivement, à sortir d'un imaginaire centré sur la production pour penser la transition énergétique et la transformation économique dans des termes beaucoup plus globaux et systémiques.
La question des renouvelables, c'est pas tant les renouvelables en tant que telles. Évidemment, il faut de l'acier, il faut du silicium, il faut du plastique, il faut de l'aluminium, il faut de l'argent, matériaux polluants à produire, qui consomment de l'énergie et qui émettent du CO2, ça ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas massif. Ce qui est très important, c'est plutôt la question centrale qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette électricité relativement bas carbone? Qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est pour faire tourner 1,5 milliard de voitures telles qu'on les connaît actuellement, alors là, c'est sûr, on n'a pas résolu le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que l'illusion, c'est pas tant les renouvelables, c'est la voiture électrique. La voiture électrique, là, pour le coup, il y a beaucoup d'acier, vraiment beaucoup d'acier. Et puis, avec la voiture électrique, il y a toute la société qui va autour de la voiture, en fait, qui est dommageable pour l'environnement, pour des dizaines de raisons différentes. Donc vraiment, à mon avis, il faut bien distinguer dans le pari d'électrification ce qui relève des renouvelables, et d'une certaine manière, de l'électricité. On en aura besoin pour des choses absolument vitales. L'électricité est sans doute... on parlait de révolution technologique, ça en fait vraiment partie. C'est une immense révolution technologique, l'électricité. C'est très difficile d'imaginer un monde moderne sans électricité, objectivement. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'imaginer un monde moderne sans une automobile individuelle de partout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la question clé, à mon avis. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité? On pourrait même imaginer des cas aberrants. L'électricité renouvelable qui permet de mieux extraire le pétrole. Ça arrive déjà. C'est-à-dire, de nos jours, l'un des plus grands champ d'éolien en mer, il est possédé par Equinor, anciennement Statoil, une compagnie pétrolière norvégienne, qui se sert de cette électricité pour extraire du pétrole. Total, un de ses plus grands projets de photovoltaïque, c'est au Qatar, c'est pour extraire du gaz. Et même les débuts de l'industrie du panneau photovoltaïque massive, ça a été financé par Exxon, dans les années 70. Alors Exxon, il faisait ça parce qu'il pensait que le pétrole, il n'y en aurait pas tant que ça, et donc il fallait chercher d'autres sources d'énergie, ils investissaient dans le nucléaire d'ailleurs, mais il voulait avoir des panneaux photovoltaïques pour alimenter les plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique, qu'on appelle maintenant le golfe d'Amérique aux États-Unis. Donc vraiment, une fois encore, il faut penser les énergies, pas nécessairement en compétition les unes avec les autres. Ce que je veux dire, c'est avec les renouvelables, on peut faire des choses absolument utiles et vitales, faire tourner un hôpital... assurer un confort minimal à la population. On peut faire des choses franchement dommageables, extraire plus de pétrole. On peut faire aussi des choses relativement utiles, faire avancer des SUV de 2 tonnes. Voilà. Il y a une gradation dans l'utile et l'inutile. Et je pense qu'en fait, le point important, la discussion politique qu'il faut qu'on ait à propos du changement climatique, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce qui est vraiment utile? Qu'est-ce qui est vraiment producteur de bien-être? Qu'est-ce qui est plus superfétatoire? Et donc, il va falloir apprendre à se passer.
Il faut réfléchir à cette notion de sobriété systémique, qui ne veut pas dire rationnement, qui ne veut surtout pas dire de demander à ceux qui n'ont pas grand-chose de serrer la ceinture, ça serait obscène et de toute façon inopérant. Non, ça veut dire organiser la société, le système de santé, le système de transport, le système industriel, etc., de façon à ce qu'ils puissent rendre leur fonction vitale, qu'ils puissent remplir leur fonction vitale, pour l'organisme dont vous et moi sommes des cellules, avec aussi peu que possible d'énergie et de matière. Et là, voilà, la politique rentre de plein droit. Est-ce que, si je prends par exemple l'exemple du numérique, on sait aujourd'hui que les data centers appellent l'essentiel des besoins supplémentaires en électricité. Bon. Est-ce qu'à un moment donné, le Parlement ne peut pas prioriser les usages? Médecine à distance ou porno à haut débit? Ce genre de questions-là, il faut se les poser parce qu'on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on est tous tributaires des mêmes sources d'énergie qui nous permettent de nous égayer et de jouir du progrès. Mais en fait, on arrive en butée, pour des raisons à la fois écologiques et géopolitiques. L'Union européenne est en grand danger du fait qu'elle est au bout de la branche dans ce système qui est voué à péricliter. Donc si on veut reconstruire, redévelopper notre économie sur des bases saines, il faut se poser des questions de choix politique en termes de production. Quelles sont les activités qu'on veut privilégier et quels sont les modes de consommation que l'on veut privilégier? Une fois qu'on a fait ces choix-là, qui sont les choix les plus nobles politiquement et les seules vraies questions fondamentales qu'on a à se poser politiquement aujourd'hui, je pense, en tant que société, enfin les grandes questions qui restent non adressées, en tout cas, eh bien on s'ouvrira la voie de l'avenir, je crois.
On rentre ? Fabrice Cocchio, président de Digital Reality France.
Donc là, on est à l'intérieur de notre data center, notre campus de data center plus exactement à La Courneuve, plus grand campus de data center de France à l'heure actuelle, fait de 4 data centers. Vous entendez, hein, on est avec des salles techniques, on est grosso modo un data center, c'est séparé en 2 types d'espaces, d'un côté des locaux techniques pour à peu près 50%, donc la partie usine, hein, pour faire marcher tout ça, et puis 50% des salles qu'on appelle blanches, qui sont des salles où nos clients vont mettre justement leurs machines pour que les services à destination d'un citoyen, d'un employé, d'un individu puissent marcher. Création de data, stockage, process, manufacturing et enfin envoi de la donnée. On ira ensuite dans une salle d'échange de données entre acteurs télécoms. C'est ce qui permet de réaliser notre vie numérique de tous les jours.
C'est un espace très sécurisé. On a passé 2 sas de sécurité.
Alors, vous en avez passé en fait déjà plus que ça, sans le remarquer. Entre le monde extérieur et la machine d'un de nos clients, nous avons 7 niveaux de protection physique pour arriver jusqu'à une ségrégation. Et on est dans des endroits où nos clients considèrent effectivement que soit les données, soit le fonctionnement des applications sont critiques, voire avec des dimensions souveraines parfois, ou en tout cas de la donnée privée. Et il est extrêmement important que n'importe qui puisse pas venir toucher n'importe comment. Donc il y a tout un jeu de sélection, effectivement, un contrôle permanent. Souriez, vous êtes filmé.
Ça, c'est une porte blindée, j'imagine.
Oui, et puis des portes résistantes au feu 4 heures, comme tout ici. Et encore une porte.
C'est une banque, en fait.
C'est plus qu'une banque, c'est les données qui sont vitales. Donc ici, on est dans un espace, on va vous montrer des éléments, qui sont finalement le point de rencontre, d'où le nom de Meet Me Room, entre la fibre optique qui part du client A qui doit aller vers le client B. Il faut bien comprendre que nos clients échangent localement, à Paris, nationalement, internationalement de la donnée, tout ça à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. On va de Paris à Marseille en 8 millisecondes, c'est-à-dire 0,008 secondes. Donc ça va très très vite, l'œil humain n'a pas le temps de le voir. On envoie un paquet de data ici à Singapour en 115 millisecondes, 0,11 secondes. On fait le tour de la planète en moins de 2 secondes, donc ça va un petit peu plus vite que l'aérien, le maritime ou autre. La totalité de ce parc de la Courneuve, de ces 4 grands data centers, sont connectés pour 130 MW auprès de RTE et Enedis. Donc c'est énorme, hein, c'est quasiment la consommation d'une très grande agglomération comme Bordeaux. Mais en revanche, 85% de la consommation, elle vient de la machine de nos clients. Si nos clients utilisent des machines efficientes, ils consomment moins. S'ils gèrent bien leur informatique, s'ils gèrent bien leur software, s'ils gèrent bien leurs applications, ils consomment moins. S'ils le font moins bien, nous, on est dépendants de leur consommation.
Quelques chiffres. Digital Reality, c'est quand même un groupe important. Vous pourriez peut-être nous donner un ordre de grandeur.
C'est assez simple, hein. Digital Reality, issu de la fusion d'ailleurs avec Interxion il y a maintenant 5 ans en Europe, c'est le numéro 1 mondial, numéro 1 européen, numéro 1 en France. Bon, voilà. On gère 328 data centers à travers le monde, on en a 32 en cours de construction pour un plan d'investissement de plus de 10 milliards, enfin des choses considérables, et on voit bien que c'est un métier extrêmement capitalistique. Le site sur lequel vous vous trouvez, hein, ici, le Digital Park de la Courneuve, c'est 1,3 milliard d'investissements. On est sur des sommes considérables. Un bâtiment comme celui-ci, c'est à peu près 120 à 150 personnes qui rentrent et qui sortent par jour. Donc quand les gens disent qu'il n'y a pas d'emploi dans les data centers, c'est faux.
Cécile Diguet, urbaniste.
Le 7 mai, RTE a fait voter par la Commission de régulation de l'énergie une mesure qui s'appelle Fast Track, donc voie rapide, pour pouvoir raccorder plus rapidement certaines industries stratégiques, dont les data centers qui seront considérés comme stratégiques. Alors pourquoi cette voie elle est ouverte? Parce que l'État, parce que le gouvernement, le président de la République, à la fois une volonté de toujours de rattraper un soi-disant retard par rapport aux États-Unis sur la question de l'intelligence artificielle en particulier, parce que finalement, les data centers sont aussi considérés comme une infrastructure stratégique pour les autres entreprises, et qu'il y a cette idée, qui est partiellement vraie, hein, que le réseau français, le réseau électrique, est fiable, et que comme il est dit décarboné, parce qu'il y a beaucoup de nucléaire, il est très attractif pour beaucoup d'opérateurs. Donc l'idée, c'est s'appuyer sur cette attractivité pour accueillir ces data centers en pensant que ça va créer de l'emploi, ce qui aujourd'hui est assez peu prouvé, puisque dans les data centers, il y a très peu d'emplois, et on n'a jamais, et personne, à ma connaissance, n'a jamais calculé vraiment ce que ça permettait comme emploi indirect, mais au troisième rang, parce qu'en emploi indirect, on a toujours les emplois de construction. Pendant 2 ans, oui, il y a beaucoup de gens qui construisent, mais après, c'est assez peu d'emplois.
In this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill, baby, drill. Here, there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. Electricity is available. You can plug, it's ready. And I can tell you, we will go fast and very fast.
En France, le développement des data centers dépend des deux gestionnaires du réseau électrique, RTE, qui assure le transport de l'électricité à haute et très haute tension sur de longues distances, et Enedis, qui gère sa distribution locale.
Les data centers aujourd'hui, en France et en Île-de-France en particulier, ils sont de plus en plus grands et puissants. En fait, pendant longtemps, jusqu'à 2020-2021, c'était uniquement Enedis qui raccordait les data centers. Ça voulait dire qu'on avait surtout des data centers avec une puissance raccordée de moins de 40 MW. Aujourd'hui, la plupart des demandes se font auprès de RTE. Et du coup, les demandes de puissance, elles vont jusqu'à 100, 120, 160 MW. Donc on est passé dans une dimension autre, avec des bâtiments qui s'étendent sur 15-20 hectares, sachant que c'est très dur d'avoir des données sur les centres de données. Les projections aussi de RTE pour 2030-2040, elles sont assez hallucinantes. Aujourd'hui, il y a 6 gigawatts, donc l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires en fonctionnement, qui sont à l'étude et qui pourraient se développer. C'est-à-dire, RTE a fait ce qu'on appelle une proposition technique et financière, une PTF, et si les opérateurs acceptent, ça aura lieu. Et par ailleurs, il y a encore 6 gigawatts qui sont à l'étude. Donc ça fait 12 gigawatts.
Toute cette infrastructure, singulièrement en France, qui est en train de se développer, elle est pensée, adossée à l'énergie nucléaire. Prendre la mesure du développement des data centers, il faut se figurer le développement corollaire du nucléaire, la relance du nucléaire qui va avec.
Quand on voit que le projet pour le nouveau nucléaire, c'est 22 gigawatts, pour, je me semble, 180 milliards d'euros, au moins, qu'aujourd'hui, il y a donc 12 gigawatts pour les data centers, dont 6 validés, on voit l'ordre de grandeur. C'est-à-dire, est-ce qu'on va finir par investir dans un nouveau nucléaire uniquement pour le numérique et les data centers, ce qui est quand même un choix, à l'heure actuelle, un non-choix démocratique, hein, puisque tout ça n'a pas été discuté, complètement fou. Et effectivement, alors, enfin, en plus, il y a eu un revirement quand même d'Emmanuel Macron sur ce sujet. On pourrait légitimement se dire, est-ce qu'en fait, il y a une pression des milieux du numérique et des big tech pour que la France continue à développer cette énergie décarbonée, enfin dite décarbonée, pour servir aussi en partie la RSE, enfin la responsabilité sociale et environnementale de ces entreprises, qui peuvent afficher en fait un bon bilan puisque c'est du nucléaire. Clairement, il n'y a qu'avec je pense, puissance de frappe, en quelque sorte, que ces entreprises sont convaincues que ça peut fonctionner. Donc, nous, ce qu'on voit de notre côté, c'est que tous les efforts qui sont faits, par ailleurs, par les ménages sur la sobriété, on va dire, énergétique, est complètement mis à mal par la croissance explosive des usages du numérique.
En fait, la crise énergétique liée à
Yves Marignac,
à l'Ukraine, a fondamentalement réactivé des réflexes qu'on croyait disparus et qui remontent aux années 60-70, avec l'idée que le nucléaire est le moyen dont dispose la France pour garantir sa sécurité, son indépendance, rayonner dans le monde, et pour garantir des prix de l'électricité maîtrisés, compétitifs, pour les ménages et pour l'industrie. Et donc, on a vu vraiment se réactiver progressivement tous les éléments des mythes fondateurs. Le paradoxe, c'est que ce mythe n'a jamais été aussi éloigné de la réalité. La France est en difficulté sur le maintien de ses ambitions nucléaires. Elle a eu tout le mal qu'on connaît à construire un EPR à Flamanville. Les projets de nouveaux réacteurs ne verront pas le jour dans les hypothèses les plus optimistes avant 2038. D'ici là, ça reste un défi de prolonger la durée de vie des réacteurs existants. Et tout ça coûte de plus en plus cher et donc vient en contradiction avec le maintien de prix acceptables pour la population et pour l'industrie. On parle d'une centaine de milliards rien que pour la première tranche de nouveaux réacteurs EPR qui vont devoir être financés directement ou indirectement par la collectivité, puisque EDF n'a aujourd'hui pas la capacité de soutenir cet investissement non rentable par nature, compte tenu du manque de compétitivité de ces nouveaux réacteurs seuls. C'est potentiellement un coût sérieux pour l'économie française à long terme, et c'est surtout un choix qui, sociétalement, engage la France, engage les territoires concernés pour très longtemps.
En termes de consommation énergétique, vous avez parlé de ce qui est des data centers qui sont en train d'être construits, mais c'est vrai que les projets futurs, ceux qui concernent vraiment le développement de l'intelligence artificielle, c'est des consommations qui sont encore beaucoup plus grandes que ça. De mémoire, on parle de data centers qui consommeraient 1 gigawatt, donc quelque chose comme la production d'un EPR.
En fait, l'IA, elle se fonde sur ce qu'on appelle des processeurs GPU, donc qui sont 10 fois plus consommateurs d'électricité que les anciens processeurs, qu'on utilise plutôt dans le stockage et le traitement classique des données. Donc il y a une intensité énergétique beaucoup plus forte. Donc ça veut dire que pour la même surface de bâtiment, on a beaucoup plus d'énergie nécessaire. Donc effectivement, dans tous les projets qui ont été annoncés au sommet de l'IA, au sommet Choose France, c'est des projets qui sont souvent de cet ordre-là, 1 gigawatt, sachant que si on comptabilise tous les projets qui sont pas tous validés, hein, on sait très bien qu'il y en a qui sont encore incertains, en fait c'est impossible de raccorder tout ça et c'est impossible d'avoir assez d'énergie pour toutes ces installations.
Quoi qu'on fasse en termes d'innovation technique, on a quand même à faire une infrastructure qui va utiliser de plus en plus d'énergie. Comment vous vous positionnez en termes de production énergétique? Est-ce que à terme, vous aurez une vocation de producteur d'énergie?
Ça se peut. Ça se peut parce qu'en fait, vous avez plusieurs enjeux sur l'énergie. Vous avez la notion de production d'énergie. D'ailleurs, la France a de la chance, tel que ça a été encore une fois rappelé au sommet de l'IA ou au sommet de Choose France par le président Macron. La France est un des rares pays européens à avoir, au moins pour les 15-20 ans qui viennent, un excès de production électrique. Donc on voit bien que la problématique, elle n'est pas sur la production, puisqu'on en a trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on exporte massivement vers nos voisins espagnols, allemands, italiens, Benelux et ainsi de suite. Donc la consommation n'est pas le sujet. Par contre, le problème, c'est la distribution électrique. Parce qu'ici, c'est comme vous à la maison, quand vous êtes avec votre aspirateur, si vous voulez le faire marcher, il faut une prise dans le mur. Si vous n'avez pas de prise, vous ne pouvez pas le faire marcher. Nous, c'est pareil. Et les data centers doivent se connecter à des postes Enedis. Alors nous, chez Digital Realty, on fait maintenant des très gros bâtiments. On ne travaille plus avec Enedis, on travaille directement avec RTE, le monopole d'État sur la distribution en haute tension, en 225 000 volts. Et on crée nos propres postes de transformation. Donc on se substitue à Monsieur Enedis, on fait des postes privés pour pouvoir alimenter nos data centers. Ceci dit, d'ailleurs c'est présent là, sur notre, on en a deux, sur ce site de la Courneuve. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir se raccorder. Et on est toujours dans la dimension de la prise électrique pour l'aspirateur. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve, à proximité immédiate, un poste de raccordement RTE, non seulement avec de la disponibilité pour me brancher, mais aussi avec de la capacité électrique en amont. Et ça, c'est tout l'enjeu, parce qu'on a effectivement des délais de plus en plus grands maintenant, qui peuvent aller jusqu'à 6, 7, 8 ans avant de pouvoir connecter nos data centers. Sauf que nous, on croit à 30% par an. Donc, on a un petit effet de ciseau qui se met en place. Alors après, vous avez deux niveaux pour répondre complètement à votre question. Nous, ça fait très longtemps qu'on a quasiment systématisé ce qu'on appelle des PPA, des plans pluriannuels d'accès à l'énergie verte. Donc, on contracte avec des acteurs d'énergie éolienne ou solaire en France pour pouvoir assurer les 100% d'énergie verte de nos data centers comme on le fait depuis 2014. Après, on est quand même en train aujourd'hui de devenir quasiment cofinanceur de ces projets, voire même demain, on sera peut-être forcé de travailler en autonomie avec des centrales à proximité qu'on aura financées, parce que finalement, financer un data center ou financer même jusqu'à la chaîne amont, c'est notre métier quasiment de tous les jours.
Vous pensez aux SMR, ces petits réacteurs nucléaires ?
Alors pour être très franc, je pense que ça sera très compliqué d'expliquer dans une zone urbaine dense, ou voire même au milieu de la Normandie, qu'on va mettre à côté d'habitation un SMR qui reste quand même un cœur nucléaire, alors de faible puissance. Mais je pense qu'il y aura des enjeux d'acceptation. Non, je pense qu'on aura vraisemblablement soit besoin de se rapprocher d'endroits gérés par des acteurs comme EDF, par exemple, avec des capacités électriques et donc des raccordements directs. Donc à un moment donné, on sera peut-être forcé de sortir des hubs de Paris, région parisienne et de Marseille, tout simplement pour accéder à l'énergie. Mais il y a d'autres technologies propres, entre guillemets, et pas forcément avec un risque industriel lié à l'exploitation du nucléaire, qui peuvent être envisagées sur notamment des systèmes d'approvisionnement à l'hydrogène, des systèmes biogaz. Enfin, il y a des tas de choses sur lesquelles nous travaillons au niveau mondial, parce que le problème, il n'est pas qu'en France, il est partout dans le monde.
On va voir le dernier lieu.
Oui.
Quand on écoute la parole des PDG de ces différents groupes qui développent les data centers, ils disent « oui, mais on développe les énergies renouvelables et nous, notre data center, il est 100% énergie renouvelable ». Comment comprendre ça ?
À l'aune de ce qu'on voit par ailleurs comme projet aux États-Unis ou en Irlande, où finalement les capacités qui sont venues, on va dire, en complément d'un réseau fragile, d'un réseau électrique fragile, puisqu'en Irlande, tout a été aspiré par les data centers, et que le réseau aux États-Unis, les réseaux Est-Ouest Texas, bon voilà, sont assez fragiles. C'est des réacteurs au gaz, c'est on voit bien, enfin aux États-Unis, ils veulent quand même rouvrir Three Mile Island, donc l'usine nucléaire qui a explosé en 1979, pour servir des data centers de Microsoft. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout une appétence pour des capacités de production, soit nucléaire, soit fossile, en gros, parce que elles leur paraissent plus maîtrisables, plus connues, plus simples. Et la question des ENR, c'est souvent de l'affichage, du cosmétique, c'est quelques panneaux solaires sur le data center, ou c'est voilà, Facebook, Apple qui vont faire des petites fermes solaires de 5 MW dans l'Oregon. C'est des petites puissances en réalité. Enfin, le nucléaire, il est aussi beaucoup, enfin, il est poussé par certains opérateurs qui font de la R&D, de la recherche-développement sur ce qu'on appelle les SMR, les Small Modular Reactors. Donc certains imaginent, y compris en France, pouvoir, d'ici quelques années, on verra, mais avoir leur propre petit réacteur sur leur site. Donc en réalité, quand on commence à creuser la question, on voit bien que les ENR, c'est cosmétique.
Célia Isoor, journaliste et philosophe.
Aujourd'hui, c'est assez simple à voir. En fait, les data centers sont en train de pomper toute cette électricité dite renouvelable qui est produite, la grande majorité, Amazon Web Services, leader mondial des data centers, donc du stockage de données, aujourd'hui, c'est le premier acheteur mondial d'électricité d'origine renouvelable. Donc, pendant qu'on est occupé à débattre de savoir si c'est mieux d'utiliser du charbon ou des éoliennes ou si le photovoltaïque gâche le paysage, toutes ces questions sont fondées, réelles et doivent l'être. Mais c'est juste que pendant qu'on est en train de se poser ces questions, on n'est pas du tout en train de se demander à quoi sert cette électricité. Et c'est malheureusement ça, l'intéressant et le problème. Et c'est ce sujet-là qu'il faut attaquer. Or, aujourd'hui, ben voilà, on produit de l'énergie renouvelable pour alimenter les GAFAM, ce qui est tout à fait logique, en fait. Parce que, étant donné la manière dont ils concentrent l'argent et le pouvoir, les GAFAM ont tout intérêt à travailler sur leur image et quelle est la meilleure manière de rendre justifiable, défendable leur industrie, c'est de capter toutes les énergies renouvelables. Et en plus, c'est ceux qui ont le plus de trésorerie pour le faire. Donc, ils le font. Et donc, ils se rendent par là même plus difficilement critiquables. Et ils obscurcissent du coup complètement le débat sur la transition, en fait. Donc, il y a vraiment cette dimension de gouffre des data centers. Il y a des chiffres qui sont sortis il y a quelques années qui disent, finalement, les données stockées dans un data center, c'est un tiers de pornographie, un tiers de publicité, marketing. Ce qui, quand même, là aussi, est assez frappant sur l'usage qu'on fait de toute cette électricité. Et l'autre donnée qu'on peut mettre en lien avec celle que je viens de fournir, c'est la consommation d'électricité des GAFAM, qui, du fait de leur data center, double tous les 4 ans. Donc, on arrive là bientôt pour l'électricité consommée par juste les data centers à l'équivalent de la demande en électricité du Japon. Voilà, c'est absolument colossal.
Est-ce que finalement, Fabrice Coquiot, cette infrastructure qui est en train de se déployer tout autour du monde, n'est pas en train de parachever l'incendie global dans lequel on est tous et tout engagés?
La révolution industrielle, c'est de la consommation d'énergie. Hein, on est passé de l'énergie humaine à l'énergie de machine. On est dans une nouvelle transition d'énergie des machines, essentiellement basée sur l'électricité. C'est tout l'enjeu des réglementations et des normes qui s'appliquent. Et d'ailleurs, on a, je pense, la chance d'être dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne est très en amont et très avancée par rapport aux autres territoires. Nous, on est présents dans le monde entier, donc on peut facilement comparer. L'Union européenne contraint beaucoup plus et mesure beaucoup plus pour éviter justement des impacts d'externalisation négative qu'il pourrait y avoir sur ce type d'environnement. Je pense que c'est le travail de chacun, encore une fois des industriels comme Digital Realty, mais c'est aussi le travail des individus. Peut-être que demain, à l'école primaire, on enseignera la sobriété numérique. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux.
Jean-Baptiste Fressoz, historien.
Je pense que de nos jours, la transition énergétique va subir à peu près le même destin que l'idée de développement durable qui avait émergé dans les années 90 et qui a été tellement employé à tort et à travers que le terme est maintenant complètement galvaudé. Transition énergétique, en fait, vu son faible fondement scientifique, à mon avis, c'est inévitable que ça subisse à peu près le même sort. Donc, de plus en plus, cette idée de transition énergétique, on va comprendre que c'est principalement un slogan. Ce qu'on fait grâce aux technologies bas carbone, principalement panneaux photovoltaïques, éoliennes, dans une moindre mesure voitures électriques, ce qu'on fait, c'est pas une transition énergétique. Ce serait trop simple et trop beau. Ce qu'on fait, c'est qu'on diminue l'intensité carbone de l'économie. C'est-à-dire on diminue la quantité de CO2 qu'il faut émettre pour produire un service, pour produire un dollar de PNB. Et je crois que c'est important de dire les choses comme ça et de ne pas employer ce terme de transition énergétique, parce que ça laisse sur la table, ça oblige à laisser sur la table la question de la taille de l'économie. Si vous dites transition énergétique, vous faites croire que d'ici 20 ou 30 ans, on aura réglé le problème. Que dans 20 ou 30 ans, l'économie de la France sera déconnectée du carbone et donc n'aura plus d'impact sur le climat. Il s'agit d'une profonde illusion technologique pour plein de raisons techniques assez basiques, principalement le fait que des secteurs entiers très importants sont extraordinairement difficiles à décarboner. Que ce soit l'aviation, quasiment impossible à décarboner, le commerce maritime, la production d'acier, la production de plastique, une bonne partie de l'agriculture, la production de ciment, un matériau clé dans notre économie, tous ces secteurs-là, c'est pas vrai, on va pas les décarboner. Et donc, je pense que c'est important de dire, voilà, on diminue l'intensité carbone de l'économie parce que ça permet aussi, donc premièrement, ça oblige à poser la question de la taille de l'économie, donc la question de la décroissance. Et deuxièmement, ça nous permet de réfléchir en termes historiques. Parce que diminuer l'intensité carbone de l'économie, on le fait depuis longtemps. Depuis les années 1980, on a divisé par 2 l'intensité carbone de l'économie à l'échelle mondiale, grâce au progrès technologique. Est-ce que les émissions ont diminué depuis 1980? Non. Elles ont dû doubler depuis 1980, les émissions mondiales. Donc on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et puis, quand je dis que ça permet de réfléchir en termes historiques, c'est qu'on peut faire des analogies avec des grands processus qui ont eu lieu par le passé, des grands progrès technologiques qui auraient dû faire diminuer les émissions de CO2 et qui ont eu l'effet inverse. Je vous donne un exemple. Dans l'entre-deux-guerres, on met au rebut la plupart des machines à vapeur, des vieilles machines à vapeur dans les usines, et on les remplace par des moteurs électriques. Soudainement, on divise par 10 l'intensité carbone de la force mécanique dans les usines. Donc une immense révolution. De nos jours, avec les panneaux solaires, on divise par 10 l'intensité carbone de l'électricité par rapport à des centrales à gaz modernes. Ce que je veux dire par là, c'est que les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, c'est une bonne nouvelle, c'est un progrès technologique, c'est certainement pas une immense révolution qui, d'un seul coup, va changer entièrement la dynamique matérielle de l'humanité. C'est pas vrai. Il faut remettre un peu ces innovations à leur place. Ça fait partie d'une longue trajectoire de progrès technologique. Il y en a eu beaucoup derrière nous, les émissions n'ont pas diminué.
François Jarige, historien.
Donc oui, il faut sortir du technosolutionnisme. C'est pour ça que pour moi, je ne vais pas insister là-dessus trop lourdement, mais c'est pour moi, la décroissance, c'est un concept utile, parce qu'il nous permet de casser ce mythe de la croissance et du technosolutionnisme, d'acter le fait que le préalable à tout ça, c'est d'abord de diminuer les flux de matière et de mettre en place des politiques publiques qui actent ça. Il y a deux décroissances. Il y a la décroissance subie, tous les observateurs le constatent. C'est-à-dire l'état écologique du monde fait que dans le siècle qui vient, il y aura des logiques d'effondrement environnemental et de pénurie matérielle très nette qui commencent déjà. Bon, après, il y a des discussions sans fin pour savoir est-ce que c'est vraiment une pénurie ou pas. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, à l'échelle d'un siècle, c'est évident qu'il y aura des pénuries et donc des formes de décroissance contrainte où il y a une décroissance volontaire, c'est-à-dire qui organise cette diminution des consommations matérielles par des politiques publiques de redistribution, par des politiques publiques à minimum égalitaires pour que ça soit acceptable socialement, quoi. C'est-à-dire, il faut réguler les consommations ostentatoires pour pouvoir avoir une chance de réguler les consommations ordinaires des classes moyennes et populaires. C'est évident. Et il n'y a rien de neuf. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. On a mis en place des taxes, des impôts pour redistribuer. Donc il faut faire ça. Mais dans un contexte néolibéral de mondialisation, de survalorisation du consumarisme comme modèle de réalisation de soi, ça reste impossible de taxer, de réguler très strictement les consommations. Alors qu'en fait, ça serait la première chose à faire.
Fabrice Coquiot, président de Digital Reality France.
Dans quelle proportion croît ce marché ?
Alors, c'est un marché, moi ça fait 25 ans que je dirige cette entreprise. On n'a jamais fait moins de 15% de croissance par an en 25 ans. Vous voyez, ça va un peu mieux que l'économie française. On est en ce moment sur des tendances à 20-30% de croissance. Hein, on est donc, et pour une raison simple, ce que vos auditeurs pourraient peut-être comprendre, c'est qu'on est face à une explosion de la création de data. La création de data à 20% par les particuliers, à 80% par les entreprises, croît de l'ordre de 130 à 140% par an. C'est considérable, c'est même colossal. Ça veut dire qu'on fait x10 tous les 6 ans.
La capitalisation boursière de Digital Reality,
Elle vient de dépasser les 60 milliards. C'est une très grosse capitalisation boursière. Si on était au CAC 40, si on était coté en France, nous on est coté à la Bourse de New York, on serait dans le CAC 40. Mais pour un titre de comparaison, c'est à peu près deux fois la capitalisation boursière d'Orange.
On poursuit la visite ?
Avec plaisir.
Avec Kim Pache, Stephen Pine, François Jarige, Jean-Baptiste Fressoz, Mathieu Ozano, Yves Marignac, Fabrice Coquiot, Cécile Diguet, Célia Isoar. Voix, Liscom, prise de son, Johanna Gabric, Benjamin Reyes, Thomas Robin, Grégory Vallon, Manuel Couturier. Musique originale, Jefferson Lambeille. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Transition énergétique, éteindre un feu hors de contrôle. Épisode 1, électricité partout, sobriété nulle part. Un documentaire de Tao Favre, réalisé par Gaël Gillon. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et pour le podcast, c'est sur l'appli Radio France.